Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit à propos de semences. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Michel Buffet nous parler de l'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, la connaissance qui invite à lire un livre disponible sur l'encyclopédie Spirit, Itinéraire Spirit, de Roger Pérez, partie 2. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Le pouvoir de la pensée, la réforme intime à partir de l'œuvre d'André Louis, en dupliquant les comportements et enseignements des esprits dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, dans nos solars, la suite du portrait de Laura sera une course d'inspiration pour le rôle de mère. La prière finale s'inspirera de la question 179 du Livre des Esprits. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, à propos de semences, écoutons.
Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. À propos de semences. On raconte qu'un jour, un corbeau attrapa une noix et l'emporta en haut d'une église dans la tour des cloches. Tout en la tenant entre ses pattes, il se mit à lui donner des petits coups de bec pour l'ouvrir. Mais brusquement, voilà qu'elle roula par terre et disparut dans une fente de la paroi. Percevant qu'elle avait échappé au bec de son persécuteur, elle supplia. « Mur, mon bon mur, pour l'amour de Dieu, qui a été si généreux envers toi, en te faisant haut et fort, lui qui t'a pourvu de cloches si majestueuses, qui offre de si beaux sons, sauve-moi, aie pitié de moi. Mon destin était de tomber entre les vieilles branches de mon père et de rester sur le sol riche couvert de feuilles jaunes. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Alors que j'étais attaqué par le terrible bec de ce féroce corbeau, j'ai fait un vœu. J'ai promis que si Dieu me permettait de lui échapper, je passerais le reste de ma vie à l'intérieur d'une fente. » Les cloches murmurèrent doucement au clocher de faire attention, parce qu'elles pouvaient être dangereuses. Après tout, c'était un corps étranger dans son intimité. Malgré tout, le mur décida de l'abriter en la laissant là où elle était tombée. Le temps passa et la noix se mit à s'ouvrir. Puis elle étendit ses racines. En peu de temps, elles se firent un chemin entre les blocs de pierre et des brindilles sortant par les fissures apparurent. Tout en grandissant, elles devinrent de plus en plus fortes et grimpèrent vers le haut, au-dessus du sommet de la tour. Des tiges épaisses et bien embusquées commencèrent à faire des trous dans les parois, les repoussant vers l'extérieur. Le mur s'aperçut bien trop tard que l'humilité de la noix et son vœu de rester caché dans une fente n'étaient pas sincères, de sorte qu'il se repentit de ne pas avoir écouté les cloches. Le noyer ne cessait de grandir et le mur, le pauvre mur, ébranlé, finit par s'écrouler. Dans notre vie, apparaissent parfois des semences qui agissent exactement comme la noix. Elles semblent insignifiantes et inoffensives. Cependant, elles produisent de grands dégâts. Nous voulons parler du germe des rumeurs qui répand la discorde et peut détruire une amitié, ou bien celle de la mauvaise humeur qui va étendre les racines de la colère et les branches de l'irritation donnant lieu à la violence. La jalousie est une petite graine qui se nourrit de la méfiance. Elle est arrosée par le manque de confiance et réchauffée par l'orgueil impulsif pouvant ébranler une famille entière. Or, si nous acceptons dans l'intimité de nos cœurs la graine de la tolérance, nous verrons grandir l'arbre de l'harmonie qui fera tomber les murs des séparations affectives. Si nous accueillons celle de l'esprit de coopération pour collaborer avec notre prochain, elle donnera vie au bel arbre de la fraternité, pouvant abriter sous son ombre ceux qui marchent sous le soleil de nombreux besoins. Si nous permettons que la précieuse graine de l'amour entre dans notre cœur, par la petite fente de la bonne volonté, elle produira un tronc si fort et des branches si hautes qu'ils toucheront le ciel, laissant ainsi les anges de la concorde, de l'union fraternelle, de la paix, descendre par ses ramures pour qu'il puisse, à travers chacun de nous, servir notre prochain au nom de Dieu. Il y a semence et semence. Mais notre cœur est unique. Il appartient à chacun de sélectionner celle qui deviendra un arbre touffu. Pensons-y et faisons le bon choix. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livrariamundoespirita.com.br.
Qu'est-ce que le spiritisme? Le spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, comment faire pour y parvenir. Il apporte des réponses aux questions existentielles que se pose l'homme. Il traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Maintenant, nous vous proposons d'écouter Michel Buffet nous parler de l'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité.
Je vais vous parler de l'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité. Allan Kardec, dans le livre des médiums, a écrit « Les esprits réagissent incessamment sur le monde physique et sur le monde moral et sont une des puissances de la nature. Le monde spirituel étant préexistant et survivant au monde matériel, les esprits ont donc, dès toute création, participé et influencé toutes les évolutions physiques et morales, manifestant les lois divines et accomplissant la volonté du Créateur. La course de l'esprit, créé simple et ignorant, prisonnier de la matière, malgré ses errances et ses erreurs, suivra son parcours évolutif, guidé par une attraction fondamentale, Dieu. Tous les esprits, incarnés ou désincarnés, ont leurs attributions et contributions au fonctionnement de la création divine. Consciemment ou inconsciemment, tous participent à l'œuvre. Cet ensemble, que Kardec appelle l'âme de l'univers, agit sous l'impulsion de la pensée divine. L'apparition de l'homme sur la terre a vu s'incarner des esprits en cours d'évolution de toutes sortes et venant de globes différents. Ces émigrants de l'espace, en s'associant par affinité, ont créé des tribus et des peuples aux coutumes, mœurs et avancement moral propre. Déjà, par la loi de progrès, des esprits ont présidé à la destinée de ces peuples, accomplissant en cela la volonté divine. Des familles spirituelles se sont formées et l'entraide fraternelle s'est manifestée entre les deux mondes. Inconsciente pour l'incarné au début, mais bien réelle pour l'activité dans le monde spirituel. L'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité s'est manifestée de deux manières. Premièrement, par l'évolution individuelle, et notamment par le guide spirituel de chacun, et deuxièmement, grâce à l'évolution collective, par ces esprits supérieurs missionnés, incarnés, et qui, par la parole et l'exemple, ont fait évoluer collectivement des régions, des peuples et des cultures prêts à les recevoir. L'évolution individuelle. Si l'évolution individuelle de chacun semble de peu d'influence sur l'histoire de l'homme, il faut considérer qu'elle touche l'humanité entière et que d'avoir en permanence autour de soi le meilleur et le moins bon ne peut être qu'un puissant moyen de prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Le but de l'esprit est de progresser et d'évoluer. L'incarnation en est le moyen. Mais seule, l'évolution, l'amélioration serait lente, hasardeuse, et les bonnes dispositions prises dans le monde spirituel difficilement applicables. Dieu, dans sa sollicitude, a voulu que nous ne soyons jamais séparés totalement de notre mère patrie, le monde spirituel. Même dans notre période primitive, où la matière obscurcissait son influence, une boussole intérieure nous guidait et la conscience se manifestait déjà. Nous sommes tous médiums, d'un type de médiumnité ou d'un autre, et à un degré plus ou moins manifeste, mais tous, nous développerons notre médiumnité latente, car nous sommes esprit. Et nos nécessaires incarnations de progrès ne sauraient nous occulter complètement notre mère patrie, le monde spirituel. Avec l'apparition de la sensibilité et de la conscience chez l'homme, Dieu a mis près de chacun un esprit chargé de nous aider à progresser en moralité, en connaissance et en sagesse. Les périodes de repos pour le corps sont aussi l'occasion pour l'esprit de retrouver l'enseignement de ses pairs. Il n'est donc pas de moment où nous ne subissions l'influence personnellement du monde spirituel. Notre médiumnité évoluera au gré de notre amélioration morale qui nous rendra de plus en plus sensibles au contact permanent du monde spirituel. L'évolution collective. Le milieu dans lequel on s'incarne aura une grande influence philosophique et morale, car lors du début de notre incarnation, nous sommes porteurs d'une vérité acquise au fil de notre parcours évolutif. L'environnement social et culturel est un moteur évolutif personnel et l'accompagnement spirituel des peuples attire de préférence des esprits, des ordres qui y correspondent. Cet environnement va nous influencer par les valeurs qu'il porte globalement, enrichi par toutes les qualités et les expériences des autres, ainsi que par leurs propres expériences et les souffrances salutaires qui permettront, au soir de notre incarnation, de regagner notre mère patrie, l'âme remplie d'une vérité encore plus grande, sur le chemin de l'absolue vérité, Dieu. Les influences spirituelles ont été d'abord occultes, avant de devenir ostensibles. Dès l'époque préhistorique, dans les sépultures, on a placé armes, parures et nourriture pour une vie après la mort, par l'intuition d'une existence seconde, succédant à la vie terrestre. Déjà, les rêves devaient être peuplés de parents ou d'amis morts depuis longtemps. Nous ne saurions séparer ces influences de l'idée de Dieu que nos lointains ancêtres se sont faits. Tout l'environnement incompréhensible et inaccessible fut l'œuvre de divinités qui peuplèrent rapidement la nature. Il fallut chercher à établir des rapports pour satisfaire ces dieux, souvent cruels et exigeants, afin de connaître leur volonté. Des personnes au statut particulier vont prendre en charge d'être les intermédiaires entre les divinités et les hommes. Suivant les régions, des cultes différents seront pris pour la parole divine. La croyance aux esprits, remontant à la nuit des temps, fut la base de nombreuses religions. Les philosophes de l'Antiquité les prenaient en compte dans leur doctrine. Et cette période a connu nombre de manifestations spirituelles. Questionner les esprits était une pratique courante qui laisse entrevoir l'importance que pouvait prendre la voie de l'au-delà dans les décisions cruciales, notamment des grands responsables. Je préciserai qu'aujourd'hui encore, des responsables politiques, hostiles aux idées spirites, consultent des voyantes pour anticiper leurs résultats d'élection. Les Écritures nous racontent qu'à la mort de Samuel, Saül, ayant chassé les magiciens et les devins de son royaume, il demanda une femme qui ait un esprit de Python pour la consulter. Et celle-ci fut trouvée à Endor. À sa consultation, Samuel apparaîtra à la Pythonisse et prédira la fin de Saül et la ruine de sa nation à cause de son impiété. Celle-ci précisera « Voici 40 ans que je fais profession d'évoquer les morts pour le service des étrangers et je n'ai jamais vu de semblable apparition. » Les esprits inspirent en permanence les hommes de génie. Et le poète, le peintre, le musicien vivent l'union de la nature et des mondes supérieurs dans des moments d'extase intellectuelle. Allan Kardec a écrit dans le livre des esprits, à propos des esprits à l'état errant et de dématérialisation, les uns parcourent les mondes, s'instruisent, et se prépare à une nouvelle incarnation. D'autres, plus avancés, s'occupent du progrès, en dirigeant les événements et en suggérant les pensées propices. Ils assistent les hommes de génie qui concourent à l'avancement de l'humanité. D'autres s'incarnent avec une mission de progrès. D'autres encore prennent sous leur tutelle les individus, les familles, les réunions, les villes et les peuples, dont ils sont les anges gardiens, les génies protecteurs et les esprits familiers. D'autres enfin président aux phénomènes de la nature dont ils sont les agents directs. Les esprits vulgaires se mêlent à nos occupations et à nos amusements. Donc, si l'influence du monde spirituel est permanente, elle est due aussi à toutes sortes d'esprits, aux influences profitables ou perturbantes. La pratique archaïque du Ouija, cette planchette alphabétique que quelques spirites utilisèrent au XIXe siècle pour converser avec les esprits, n'a fait que traverser l'histoire. L'abbé Poussin, il y a un siècle, dans son livre « Le spiritisme devant la science et devant l'histoire », cite la conspiration contre l'empereur Valens Flavius, et dans laquelle les conjurés, au nombre desquels se trouvait Jean Blic, tâchèrent de savoir, au moyen des pratiques spirites, quel serait le successeur de Valens. Patricius et Hilarius, traduits devant un tribunal romain pour crime de magie, se défendirent en racontant comme quoi ils avaient fabriqué, avec des morceaux de laurier, une petite table sur laquelle ils avaient placé un bassin circulaire fait de plusieurs métaux, et qu'alors un homme vêtu de lin tenait suspendu au-dessus du bassin un anneau de lin très fin, et que l'anneau, sautant successivement mais sans confusion sur plusieurs lettres gravées et s'arrêtant sur chacune, formait des vers parfaitement réguliers qui étaient des réponses aux questions posées. Hilarius ajouta qu'un jour, ils avaient demandé qui succéderait à l'empereur actuel, et que l'anneau ayant sauté, il donna les syllabes Théo, et qu'ils n'en demandèrent pas davantage, persuadés que ce serait Théodore. Mais les faits démentirent plus tard les magiciens, mais non la prédiction, car ce fut Théodose. Si aujourd'hui le mot de médium souffre pour beaucoup de tromperies, de charlatanisme et d'argent, nous, spirites, nous en connaissons la pureté, la grandeur et l'exigence. L'histoire est parsemée de prophètes, de missionnés et d'inspirés de génies qui, communiquant avec l'invisible, ont été porteurs de la parole divine. C'est par leurs œuvres que Dieu jalonne le parcours de ses enfants. Et ses desseins nous montrent la voie de la grandeur de l'âme. Les hommes de génie nous font découvrir les pages du grand livre de l'évolution. C'est dans les lieux favorables au recueillement que les grands initiés recevront l'enseignement d'en haut. Hermès, Krishna, Bouddha, Confucius, Moïse, les prophètes Isaïe, Ézéchiel, Daniel, arriveront le Christ, Mahomet, Jeanne d'Arc, Allan Kardec, Chico Xavier. En permanence, Dieu a envoyé des esprits missionnés pour faire avancer les idées, les coutumes, les mœurs et faire évoluer les consciences. Ces envoyés du ciel ont marqué leur époque par leurs paroles et par leurs actes, proposant au peuple une évolution leur permettant de sortir de la barbarie et une prise de conscience de la nécessaire fraternité humaine. La volonté divine se manifeste par des missionnaires qui s'incarnent afin de faire progresser les hommes dans un sens déterminé. Il n'existe pas de limite à la vérité et il nous faudra tout connaître, tout comprendre pour avancer dans la parfaite connaissance des lois divines. Des esprits supérieurs en s'incarnant ont frappé les consciences de leur époque par leurs paroles, par leurs actes. Ils ont fait avancer les idées et fait remettre en cause les faiblesses humaines qui freinaient le progrès. Yeshua, le Nazaréen, est l'exemple sublime de ce que peut apporter un esprit supérieur dans la marche du progrès d'une planète. Mais combien de missionnaires s'incarnent pour aider à l'avancement de leurs frères et pour faire progresser les arts, la philosophie, la morale et la science. Ils sont myriades, mais ils sont tous accompagnés par le monde spirituel dans leur mission, car il leur faut le souffle venu d'en haut pour pouvoir apporter plus que la connaissance déjà acquise sur Terre. Mais c'est aussi des missionnaires qui viennent pour soulager par la parole, par les fluides spirituels, assister de ces grands esprits au pouvoir manifeste de régénérer les corps fatigués et rendre la force d'accomplir les épreuves terrestres. Il en est d'autres qui seront des exemples d'humilité et qui nous feront comprendre la grandeur des silences qui nous unissent à l'espace infini, peuplé de ceux qui accomplissent la volonté divine en permanence. Trois grandes révolutions divines ont traversé l'histoire, marquées par des faits médiumniques. C'est avec Moïse qu'Élohim dicte les tables de la loi. Viendra ensuite le divin médium Jésus, assisté d'une pléiade d'esprits, annonçant le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui présida aux travaux de codification réalisés par Allan Kardec. Et ce sont les esprits qui se communiquent pour expliquer à l'homme sa vraie nature spirituelle et la raison de ses passages sur cette planète. Trois grandes révolutions furent en avance sur leur temps, car Dieu ne peut apprendre à ses enfants que ce qu'ils peuvent assimiler, comprendre et pratiquer. La confirmation scientifique du spiritisme démontre la vérité contenue dans la philosophie et la morale, et les esprits supérieurs en avaient préparé l'avènement. L'homme est enfin prêt à comprendre les pouvoirs de l'esprit. Il sait que son amélioration va lui permettre personnellement, par son mérite, de vérifier en tant qu'incarné la réalité de l'existence des esprits. Il va pouvoir progresser, soutenu par l'au-delà, et apprendre ce qu'est la réalité du monde spirituel. Il va pouvoir vérifier la manifestation permanente des esprits dans le monde physique et dans le monde moral. Les médiums, ces intermédiaires des deux mondes, apportent en permanence des faits qui prouvent l'existence de la vie après la mort, démontrant la parole apportée par les esprits eux-mêmes. La philosophie et la morale sont confirmées scientifiquement par des faits. En permanence, le monde spirituel nous oriente D'abord, personnellement, avec notre ange gardien, ce guide dont la voix est adaptée à chaque situation que nous vivons, et collectivement, par l'orientation apportée sur les masses par ces grands missionnés, dont l'empreinte ne sera véritablement assimilée que des siècles plus tard pour certains. L'humanité marche en suivant ces phares que Dieu nous envoie pour baliser le chemin de l'évolution de l'homme. Depuis les esprits les plus radieux jusqu'aux hommes les plus grossiers, c'est une chaîne ininterrompue qui nous unit tous. Elle s'appelle fraternité universelle et elle s'appuie sur une loi divine créatrice, la loi d'amour. Nous devons tout à Dieu et à nos aînés qui, descendus de leur monde de plénitude et de lumière, sont revenus souffrir parmi nous, comme le berger, afin que tous ceux qui pourraient s'égarer puissent retrouver la route éclairée de l'évolution. Il n'est pas de lieu ni de moment où le monde spirituel ne soit présent. Mais chaque esprit ne peut intervenir dans le monde matériel qu'en fonction des possibilités que lui offre sa propre évolution. Il appartient à l'incarné de comprendre d'où il vient, qui il est et quel est son devenir. Le spiritisme est venu confirmer et expliquer l'interférence permanente du monde spirituel, ce monde invisible qui alimente la pensée et la vie. Il est venu nous préparer à l'universalité médiumnique qui se développe et qui demain sera le guide adapté aux grands progrès moraux et sociaux de notre planète. Demain, l'homme ne craindra plus la mort, car entre les vivants et les morts, l'intime communion sera permanente. Mais il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Et lorsque nous aurons bien assimilé la loi créatrice de notre divin Père, la loi d'amour, lorsque nous aurons bien compris que nous n'existons que par elle, alors nous la reporterons entièrement sur nos frères en souffrance de progrès, car Dieu seul nous suffira, et nous redescendrons vers ses frères, encore aveuglés par la matière, pour leur apporter la parole consolante et éclairer la route de leur évolution, car il est dit qu'il n'y aura pas d'égaré dans le troupeau du Seigneur. Je vous remercie de votre attention.
Comment le spiritisme a pris naissance ? Au milieu du XIXe siècle, des personnes de différents pays du monde avaient pris pour habitude d'invoquer des esprits au moyen des tables tournantes. Cette activité, pratiquée surtout par curiosité et intérêt pour l'étrange, attira aussi l'attention de plusieurs érudits de l'époque, qui en firent une étude sérieuse. En s'intéressant à ces phénomènes, ils se rendirent compte que des êtres non matériels et dotés d'intelligence provoquaient les mouvements de ces tables. De là, on leur posa de nombreuses questions auxquelles ils répondirent. Ces intelligences se présentèrent comme étant des esprits des personnes décédées. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, pédagogue français, né en 1804, se mit en 1855 à l'étude de ces phénomènes avec un certain scepticisme. Il investit alors tout son temps à leur compréhension. De ce travail naquirent 5 livres et des dizaines de revues qui forment aujourd'hui les bases de la philosophie spirit. C'est ainsi que naquit le spiritisme. Maintenant, la connaissance qui invite à lire un livre disponible sur l'encyclopédie spirit. Itinéraire spirit de Roger Pérez. Deuxième partie.
Pour la rubrique Encyclopédie Spirit, nous continuons à lire la 20aine de pages intitulée « Itinéraire Spirit » de Roger Pérez. Vous trouverez le fichier PDF dans le menu rubrique « Livres », onglet « Livres en lien avec le spiritisme » et à la lettre « P ». Dans l'émission du 15 février, nous avions exceptionnellement lu la première partie. Aujourd'hui, nous continuons de lire la seconde partie pour vous faire partager cet ouvrage riche de références, de connaissances, de réflexions par celui qui a parcouru pendant de longues années le chemin spirit, le chemin de l'élévation morale, le chemin de la transmission, de l'enseignement, de la communication avec les esprits, tout en mettant en place des structures pour que ces bienfaits soient offerts au plus grand nombre. La partie que je vais vous lire aujourd'hui est très utile pour nourrir nos discussions ou répondre à des questions que nous pouvons avoir lors d'un accueil, lors d'une étude. En effet, il y a une multitude de références en lien avec la survivance de l'âme, la réincarnation, la communication avec les esprits qui sont contenues dans la Bible, dans la littérature comme l'Odyssée d'Homère et dans l'histoire des peuples de l'Égypte, de l'Inde, de la Chine. Dans cette partie, il y a aussi une réflexion argumentée pour mettre à sa juste place les manifestations physiques. La question du père-esprit est aussi traitée avec des liens avec différentes disciplines, différents penseurs. On y retrouve même des citations de Jean Jaurès. Donc une partie très apprenante, très intéressante, très enrichissante quand nous avons des discussions ou simplement pour mieux connaître la littérature en général, les penseurs, les cultures des différents pays. Allez, je m'arrête là et passons à la lecture. Le rôle des voyants, des oracles, des pythonisses, des inspirés de tout ordre, est considérable. Ne voyons-nous pas Daniel, par exemple, y provoqué par la prière des fées médiumniques? Ancien Testament, livre de Daniel, chapitre 9, verset 21. Le livre qui porte son nom est cependant considéré comme inspiré. Comment les défenses de Moïse pourraient-elles servir d'argument aux croyants d'aujourd'hui, alors que pendant 3 siècles de notre ère, les chrétiens n'y ont vu aucun obstacle à leur relation avec le monde spirituel, autrement dit, le monde invisible. D'ailleurs, saint Jean ne disait-il pas, ouvrez les guillemets, « Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Fermez les guillemets. Ce n'est pas là une prohibition. Au contraire, on lit dans Samuel au chapitre 9, verset 9, ouvrez les guillemets. Jadis, lorsqu'on allait consulter Dieu, on disait « Venez, allons trouver le voyant. » Car ceux qu'on appelle aujourd'hui prophètes, on les appelait voyants. Fermez les guillemets. C'était donc Dieu qui inspirait aux voyants toutes leurs réponses. Mais les prophètes et les voyants étaient faillibles et se trompaient souvent. Comment concilier ces erreurs avec l'infaillibilité de Dieu? Par une contradiction singulière, chez ceux qui niaient les manifestations des âmes, on en venait parfois à évoquer les morts, admettant ainsi le fait que Saul évoque l'esprit de Samuel chez la pythonisse d'Endor. Samuel, chapitre 28, verset 6. Peu à peu, les croyances des Juifs s'élargirent et se complétèrent au contact d'autres peuples plus avancés en civilisation. L'idée de la survivance et des existences successives de l'âme pénétra de l'Égypte et de l'Inde jusqu'en Judée. Les Sadducéens reprochaient aux pharisiens d'avoir emprunté aux Orientaux la croyance aux vies renaissantes de l'âme. Ce fait est affirmé par l'historien Flavius Joseph. Les Esséniens et les thérapeutes professaient la même doctrine. Il n'était pas impossible de dire qu'il existait dès cette époque en Judée, comme cela est prouvé plus tard, à côté de la doctrine officielle, une doctrine secrète, plus complète, réservée aux intelligences d'élite. D'ailleurs, le plus ancien code religieux que l'on connaisse, les Védas, paru avant Jésus-Christ, relate l'existence des esprits. Voici comment le grand législateur Manu chante le Rig Veda, un des quatre livres sacrés des Védas. Ouvrez les guillemets. Les esprits des ancêtres, à l'état invisible, accompagnèrent certains brahmanes pour les cérémonies en commémoration des morts sous une forme aérienne. Ils les suivent et prennent place à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent. Fermez les guillemets. Les premiers missionnaires arrivés en Chine observent un grand nombre d'expériences qui ont pour but de faire communiquer les vivants et les disparus depuis des temps immémoriaux. Tous les historiens sont d'accord pour accorder aux prêtres de l'ancienne Égypte des pouvoirs qui semblaient surnaturels. En Grèce, la croyance aux évocations était générale. Les peuples possédaient toutes les pythonisses chargées de rendre les oracles en évoquant les dieux. Mais parfois, le consultant désirait voir et parler lui-même à l'ombre désirée, et comme en Judée, on parvenait à le mettre en communication avec l'être qu'il voulait interroger. Homère, dans l'Odyssée, décrit minutieusement par quelle cérémonie Ulysse peut converser avec l'ombre du divin Térésias, devin de Thèbes qui joua un grand rôle dans la légende d'Œdipe. Apollonius de Tyane, savant philosophe, pythagoricien et thaumaturge renommé, possédait des connaissances très étendues. Sa vie fourmille de faits extraordinaires. Il croyait fermement aux esprits et à leur communication avec les incarnés de la terre. Tous les dieux qui rendirent des oracles avaient des médiums. Ils étaient les Palicites chez les Égyptiens, les Pythonisses à Delphes, les Sibylles des temples de Dodone, les Augures d'Olympie. Tertullien, docteur de l'Église né en 160 à Carthage, décrit la pratique du spiritisme de son temps, comme nous pouvons le constater de nos jours, par ceux qui ont l'honneur et la charge d'être les légitimes représentants de cette pratique dans les conditions ouintes par Dieu. L'héroïne Jeanne d'Arc montre que les communications avec les esprits peuvent donner des résultats aussi grandioses qu'inattendus. L'histoire de cette jeune fille chassant l'étranger qui étouffait son pays, guidée par les puissances spirituelles, semblerait une merveilleuse fiction si l'histoire ne lui avait donné son inattaquable consécration. Les manifestations matérielles et spectaculaires du spiritisme qui se sont produites durant tout le XIXe siècle sont de nos jours reléguées au second plan par les vrais spirites. Le spiritisme demeure scientifique, mais son caractère religieux prime sur tous les plans. Car l'expérience a précisément démontré que ceux qui ne veulent voir dans le spiritisme que la partie expérimentale, le fait matériel ne s'arrête qu'à l'effet, en occultant la cause. À l'exemple des parapsychologues matérialistes qui préfèrent ainsi la coquille à la noix, la paille des mots au grain des idées, la reliure au contenu du livre. Si nous considérons maintenant la morale enseignée par les esprits instructeurs, elle est tout évangélique. C'est tout dire, elle prêche la charité chrétienne dans toute sa sublimité. Dans Saint Jean, au chapitre 14, versets 15, 16, 17, 26, on peut lire. Ouvrez les guillemets. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre directeur, afin qu'il soit éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous tous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Fermez les guillemets. Verset 26. Ouvrez les guillemets. Mais le directeur, le Saint-Esprit que mon Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Fermez les guillemets. Le Saint-Esprit veut dire, dans la traduction la plus courante, le paraclet, lequel en hébreu signifie aussi consolateur et en grec assistant, conseiller, avocat. Rabelais disait, ouvrez les guillemets, rompez l'os et sucez la moelle, fermez les guillemets. C'est une moelle fortifiante que l'enseignement des esprits, car il nous guérit, à notre sens, de la peur de la mort. Il nous arme pour les luttes fécondes. Le spiritisme a aussi tout un côté scientifique. Il repose sur des faits incontestables. Mais ce sont surtout les conséquences morales qui intéressent la majorité de ceux qui le pratiquent. L'expérimentation, l'analyse minutieuse des faits restent toujours à la portée de tous. Les humbles, qui forment la masse des hommes, ont tout ce qui est nécessaire pour comprendre l'étude des phénomènes et leur finalité. Ceux-là ont le plus de capacité pour en connaître tous les fruits, toute la portée. Allan Kardec dit, ouvrez les guillemets, le spiritisme, si l'on se donne la peine de l'étudier, n'est pas autre chose que l'étude de la vie dans sa plénitude, la vie sous ses deux formes alternatives, visible et invisible. Fermez les guillemets. La physique quantique a démontré ce constat. Nous pouvons donc dire que la physique de pointe de nos jours milite en faveur de l'existence d'un monde invisible organisé. Tout ce que nous voyons, dit-elle, n'est qu'apparence. Le réel est l'invisible d'où émane l'énergie intelligente et créatrice qui meut tout infini dans l'éternel. Il s'agit du distinguo qu'enseignent les esprits mandatés par Dieu entre la substance et l'essence. Mais les scientifiques, tout au moins dans leur déclaration officielle, perdent pied devant la création et se trouvent dans l'impossibilité de nier le parfait principe dynamique dont la réalité éclate et s'impose par la logique de la raison, Dieu. Pour nous, spirites, nous savons que cette vie invisible nous domine, nous enveloppe, nous relance. Nous en sortons à la naissance et nous y replongeons à la désincarnation. L'enseignement des esprits nous apprend que la vie invisible est sans limite. Elle est préexistante et survivante à tout, tandis que la vie terrestre n'est qu'une forme passagère de l'existence fugitive, comme l'ombre d'un instant, comparée à l'éternité. Ils nous disent que la réincarnation est la plus admirable des lois. Avec elle disparaissent tous les préjugés de race et de caste, puisque le même esprit peut renaître riche ou pauvre, grand patron ou manœuvre, chef ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. Essayez, disent-ils, de tous les arguments invoqués contre la servitude et l'esclavage, contre la sujétion de la femme à la loi du plus fort, s'il y en a un seul qui prime en logique, c'est le fait de la réincarnation. Si donc la réincarnation fonde sur une loi naturelle le principe de la fraternité universelle, elle fonde sur la même loi celui de l'égalité des droits sociaux et par suite celui de la liberté. la vie invisible et le siège de force de puissance qui anime le cosmos, c'est le monde des causes. Sans les connaître, aucun savant ne pourra jamais résoudre l'énigme de l'univers. Une des principales confirmations qu'a donnée l'expérimentation spirite est l'existence du Père Esprit ou corps spirituel. Tertullien déclarait que la corporalité de l'âme est affirmée par les évangiles. Ouvrez les guillemets. Corporalitas animoe et ipso evangelio relucessi. Fermez les guillemets, car ajoute-t-il, ouvrez les guillemets, si l'âme n'avait pas un corps, l'image de l'âme n'aurait pas l'image du corps. Fermez les guillemets. Traité des Amina, chapitres 7 et 9, édition de 1657, page 8. Saint Basile parle du corps spirituel, comme l'avait fait Tertullien. Dans son traité du Saint-Esprit, il assure que les anges se rendent visibles par les espèces de leur propre corps en apparaissant à ceux qui en sont dignes. Entre parenthèses, Saint Basile, Liber de Spiritu Sancto, 115, édition bénédictine de 1730, tome 3, page 32. Ce point de vue était aussi celui de Saint Grégoire, de Saint Cyril d'Alexandrie, de saint Ambroise, ce dernier s'exprimant ainsi, ouvrez les guillemets. Ne nous imaginons pas qu'aucun être soit exempt de matière dans sa composition, à l'unique exception de la substance de l'adorable Trinité. Fermez les guillemets. La trilogie spirite est précisément cet ensemble. Corps, Père Esprit, Esprit. Saint Cyril de Jérusalem écrit ceci. Ouvrez les guillemets. Le nom d'esprit est un nom générique et commun. Tout ce qui n'a pas un corps épais et lourd est d'une façon générale appelé esprit. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Catéchise 16, édition bénédictine de 1720, pages 251 et 252. Fermez la parenthèse. En d'autres passages, Saint Cyril attribue soit aux anges, soit aux hommes des défunts, des corps plus subtils que le corps terrestre. Ouvrez la parenthèse, Catéchésis 12, paragraphe A4, Catéchésisme 18, paragraphe 19, fermez la parenthèse. Évode, évêque d'Uzal, écrit en 414 à Saint Augustin pour l'interroger sur la nature et la cause d'apparition, dont il lui donne plusieurs exemples, et pour lui demander si après la mort, ouvrez les guillemets, quand l'âme a quitté ce corps grossier et terrestre, cette substance corporelle ne demeure point unie à quelque autre corps non composé comme celui-ci, mais plus subtil et qui tient de la nature de l'air et de l'éther. Je crois donc que l'âme ne saurait être sans quelque corps. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, œuvre de saint Augustin, lettre 158, fermez la parenthèse. Saint Bernard dit, ouvrez les guillemets. Nous attribuons donc en toute assurance à Dieu seul la vraie incorporéité ainsi que la vraie immortalité, parce que seul des esprits, il dépasse toute la nature corporelle, assez pour qu'il n'ait besoin du secours d'aucun corps pour aucun travail, puisque sa volonté spirituelle seule, lorsqu'il l'exerce, lui permet de tout faire. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Sermo 6, Incotica Edit Malayon, tome 1, collection 1277, fermez les guillemets. Enfin, Saint Jean de Thessalonique confirme au concile de Nicée en 737 ses vues. Ouvrez les guillemets. L'Église décide que ces êtres sont à la vérité spirituelle, mais non complètement privés de corps, et doué au contraire d'un corps aérien, ténu et igné. Il n'y a que Dieu qui soit incorporel et sans forme. Quant aux créatures spirituelles, elles ne sont nullement incorporelles. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Histoire universelle de l'Église catholique par l'abbé Rohrbacher, docteur en théologie, tome 11, pages 209 et 210. Nous avons cru devoir rappeler ces opinions parce qu'elles constituent autant d'affirmations en faveur de l'existence du Père-Esprit. Celui-ci n'est pas autre chose en réalité que ce corps subtil, enveloppe inséparable de l'Esprit, indestructible comme lui, entrevu par l'Église de tous les temps. Ces affirmations sont complétées par des témoignages de la science actuelle obtenus par la photo Kirlian. L'aura, fondement des philosophies occidentales, et que les peintres, autrefois dessinés autour des saints, devint une réalité de la physiologie humaine. Un électricien soviétique, Semyon Kirlian, a inventé un appareil qui produit un champ électrique. Il s'agit d'un générateur émanant entre 75 000 et 200 000 oscillations par seconde. Si nous mettons une plaque photosensible en contact avec la matière vivante, celle-ci se trouvant placée dans le champ électrique produit par le générateur, nous obtenons une bioluminescence qui reflète l'activité vitale de la matière. Chaque élément, animé de vie au sens biologique, plante, fleur, main, tête, dégageant dans ces conditions une aura énergétique particulière inhérente à chaque élément vital. Les savants appellent cela l'effet radiant, certains autres l'effet corona. C'est Jean Jaurès qui écrit dans son article « Ouvrez les guillemets, la réalité du monde sensible, fermez les guillemets. » Ouvrez les guillemets. Il y a en nous un moi inconnu qui peut exercer une action directe sur la matière, soulever par une volonté énergique un corps étranger, comme s'il était son propre corps, percer du regard l'opacité d'un obstacle et recueillir à distance, à travers l'espace, la pensée exprimée d'un autre moi. Fermez les guillemets. Gabriel Delanne a produit deux remarquables ouvrages sous le titre « Ouvrez les guillemets, les apparitions des vivants et des morts, fermez les guillemets, prouvant ainsi l'existence du Père-Esprit ». En outre, par de nombreux moulages de mains et de matérialisations d'esprit, obtenus par Kroc, Russell Wallace, Aksakoff, par la vision des médiums, la photographie de défunts que nous avons, nous pouvons non seulement prouver l'existence de ce corps subtil dont saint Paul parle, mais également ce qui nous paraît le plus essentiel, notre immortalité. Nous avons sur ce point une divergence de vue avec nos frères catholiques et néanmoins chrétiens comme nous, qui confondent l'action du Père-Esprit et ses manifestations après la séparation du corps humain avec l'idée de la résurrection de la chair. Sauf erreur ou omission de notre part, cette expression se rencontre peu dans les Écritures. On y trouve plutôt celle de la résurrection des morts. Entre parenthèses, Paul, 1er Épître aux Corinthiens, 15-21. Fermez la parenthèse. Dans les Actes des Apôtres, au paragraphe 23, 6-9, Paul s'écrit en plein Sanhédrin, ouvrez les guillemets, « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis en jugement. » Il s'éleva un grand bruit et quelques-uns des pharisiens contestaient en disant « Nous ne trouvons point de mal en cet homme. Que savons-nous si un esprit ou un ange ne lui a point parlé ?» Fermez les guillemets. Est-il possible de voir en ces faits autre chose que des cas de dédoublement de l'être humain et l'action à distance de son enveloppe fluidique ? Il en est de même de nombreux cas d'apparition des désincarnés mentionnés dans les Écritures. Elles ne sont explicables que par l'expérience d'une forme semblable à ce que l'esprit possédait sur la terre mais plus subtil, plus ténu, et survivant à la destruction du corps charnel. Sans père esprit, sans forme, comment les esprits pourraient-ils se faire reconnaître des hommes? Comment pourraient-ils se reconnaître entre eux dans l'au-delà? Sous des appellations diverses, cette relation importante entre le corps et l'esprit est désignée dans le public sous les noms de corps astral, éthérique, vital, spirituel, âme sensible, psyché, ou encore par le psy, des parapsychologues. D'autres, attachés aux conceptions matérialistes, confondant la cause et l'effet, voient ce corps spirituel naître en même temps que se forme le corps physique, durant la gestation, ou encore le voient lié au constituant de la cellule, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ainsi que les gènes et chromosomes du code génétique. C'est, à notre sens, une erreur, car seul compte l'esprit dans la création. À preuve, les hommes de génie n'ont laissé pour la plupart qu'une progéniture phallote ou dégénérée. Nous pouvons le constater avec Périclès, Sophocle, Cicéron, Alexandre le Grand, Marc Aurèle, Charlemagne, Henri IV, Pierre le Grand, Descartes, Goethe, Racine, La Fontaine, Buffon, qui n'ont engendré que des médiocres ou des chétifs. Le corps physique, comme tout ce qui est matière, n'a qu'une stabilité et une existence relative, permettant à l'esprit immortel d'accomplir les expériences nécessaires à son développement. Le monde des causes est celui de l'esprit. Allan Kardec dit, ouvrez les guillemets, « Le lien, ou père-esprit, qui unit le corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui son corps éthéré. » Trois petits points. Ainsi, l'esprit n'est pas un être abstrait que la pensée seule ne peut concevoir. Trois petits points. C'est un être réel, concret, circonscrit. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, le Livre des Esprits, chapitre 6, page 22. Fermez la parenthèse. Le Père-Esprit est le siège des champs magnétiques, s'équilibrant et combinant leurs lignes de force pour constituer l'image de toutes les fibres et de tous les organes du corps physique qu'il devra former et vitaliser en sélectionnant et en arrangeant selon leur destin propre, non pas les cellules directement, mais en prenant possession des esprits cellulaires qui les animent et qui possèdent leur vie individuelle. On peut éprouver certaines difficultés à imaginer un ensemble de lignes de force réalisant des formes. L'arrangement des cristaux de glace sur une vitre, de la limaille de fer sous l'influence de l'aimant sont des exemples simples. La masse des corps, la cohésion moléculaire sont l'effet des forces. Les méthodes d'acupuncture sont révélatrices de l'importance de ces lignes de force dans le corps humain. Les révélations du monde spirituel nous indiquent que le père-esprit humain tient de la matière et de l'esprit. Il enregistre tout, même les gestes les plus insignifiants d'une manière indélébile. Cette mémoire nous est rendue dans l'au-delà, où nous nous verrons présents et agissants. Gabriel Delanne le rappelle lorsqu'il écrit « Ouvrez les guillemets, la connaissance du Père-Esprit et toute l'explication des vies successives. » Fermez les guillemets. D'autre part, on ne peut expliquer les nombreux cas de bilocation sans l'existence du Père-Esprit. Exemple, Alphonse de Ligorie fut canonisé pour s'être montré simultanément en deux lieux différents. Saint Antoine de Padoue défend son père d'une accusation de meurtre devant le tribunal de Padoue et dénonce le vrai coupable au moment même où il prêchait en Espagne devant de nombreux fidèles. Saint François Xavier se montre plusieurs fois à la même heure en des milieux fort éloignés l'un de l'autre. Même chose pour Maria d'Agreda, dont nous avons relaté les extraordinaires bilocations dans la revue Spirit. Même phénomène pour le curé d'Ars et de Padre Pio, Joseph de Copertino, se transporter auprès des mourants. Saint Pierre d'Alcantara apparut à Thérèse d'Avila un an avant sa mort. Les solitaires du désert étaient familiarisés avec ces sortes d'extériorisations ou sorties astrales. Saint Jean d'Égypte répondit à un officier qui sollicitait pour sa femme la permission de la visiter. Ouvrez les guillemets. « Allez dire à votre femme qu'elle me verra cette nuit sans sortir de la maison où elle se trouve. » Fermez les guillemets. Le psychologue et anthropologue italien Ernest Bozzano, dans son traité sur la bilocation, compile une série de ces phénomènes survenus chez une foule de personnes. L'esprit bénéficie du travail de purification et de développement du Père-Esprit. Il conserve la quintessence de ses expériences terrestres sous forme d'analyse, de jugement, de sentiment, d'intelligence, de connaissance, de spiritualité, d'amour. C'est son bagage impérissable que le Père-Esprit lui a procuré par l'enregistrement et la transmission de ses sensations et réactions qui se transforment en automatisme. Les pensées, les actions contribuent à tisser, à fournir la trame dont est composé le Père-Esprit, à l'épurer ou à l'alourdir. Le Père-Esprit accumule une foule de souvenirs, y compris ceux des vies passées, qui sont parfois restitués au cerveau, à l'état de veille, sous forme de projection mentale. Si par violence ou par suicide, le Père-Esprit est blessé, mutilé, il prend les blessures du corps, puisqu'il est frappé avant l'extériorisation complète de la matérialité. S'il se réincarnait trop vite, le Père-Esprit ne pourrait guérir, et ses cicatrices affecteraient le corps matériel de l'incarnation suivante. Il y a d'autres fonctions dans le Père-Esprit, mais qui seraient trop longues à développer ici. En résumé, le Père-Esprit, par la force vitale dont il est le centre, joue le rôle essentiel dans tous les phénomènes relatifs à la faculté médiumnique, ainsi qu'au magnétisme dit « animal », entre guillemets, l'hypnose, le traitement des maladies organiques et les guérisons. Une définition concise donnée par les esprits est ainsi énoncée, ouvrez les guillemets. Le Père-Esprit est le corps fluidique de l'esprit, c'est la condensation du fluide universel autour d'une source intelligente, l'esprit. Fermez les guillemets. Les esprits évolués transforment leur Père-Esprit quand ils s'approchent des humains pour se communiquer. De là, pour eux souvent des difficultés pour se faire entendre dans les ambiances où existe une mentalité matérialiste. La nature du Père-Esprit est toujours en relation avec le degré d'avancement moral de l'esprit. Il peut se manifester, comme dans les apparitions et les matérialisations. C'est un principe de conservation d'énergie où est accumulé un maximum d'informations. La haine, l'irritation, les excès de table, le tabac, l'alcool, les déséquilibres sexuels, les déviations sexuelles, les drogues se répercuteront sur nos prochaines incarnations par des séquelles physiques sur le corps que nous reprendrons. La vocation du spiritisme est autant spiritualiste que scientifique. Ce concept bivalent permet de conduire l'élévation des esprits en évitant tout dogmatisme religieux. Mais être spiritualiste, c'est aussi être religieux, dans son vrai sens étymologique. Comme le préconise saint Augustin, ouvrez les guillemets, « Nous avons cherché, comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme ceux qui doivent chercher encore. » Fermez les guillemets. Aucun autre commentaire ne sera fini sur cette conviction, persuadé que tout à chacun saura l'apprécier. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous lirai la fin du texte dans la prochaine émission où nous verrons les différences entre résurrection, réincarnation et plein d'autres points passionnants. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont à l'initiative de l'encyclopédie Spirit, incarnés, désincarnés, qui nous mettent ainsi à disposition des textes pour nous faire avancer et pour nous épauler.
Les œuvres de base du spiritisme. Le Livre des Esprits, 1857. Il reprend plus de 1000 questions posées aux esprits sur le monde spirituel, sur la création, sur le bien et le mal, sur la réincarnation, sur les peines et le bonheur futur. Les esprits supérieurs y répondent de manière intelligible. Le Livre des médiums, 1861. Étude sur l'action des esprits, sur les moyens de communiquer avec le monde spirituel, ainsi que sur les difficultés et les risques de cette pratique. L'Évangile selon le spiritisme, en 1864. Étude pratique et actualisée du message du Christ. Livre riche d'enseignements d'une portée remarquable. Le ciel et l'enfer, en 1865. Étude remplie de témoignages touchants sur la vie après la mort et les conditions de vie dans l'au-delà. Les concepts de paradis et d'enfer y sont actualisés en se basant sur l'observation et la logique. La Genèse selon le spiritisme, en 1868. Étude critique sur la création du monde, des fluides, les miracles et les prédictions de la Bible. Nous vous proposons maintenant une causerie du CESAC avec Régis Verhagen, le pouvoir de la pensée.
Il existe quelque chose que chacun de nous fait des milliers de fois par jour. Et ironiquement, c'est quelque chose auquel on ne fait pas tellement attention. C'est un endroit où on a une liberté totale, où l'on est totalement libre. Même si souvent, on le vit comme une prison, parce que cette chose s'impose à nous. Elle est souvent négative et répétitive, et beaucoup trop rarement positive. Elle est la chose qui crée notre vie, qui crée notre bonheur ou qui crée notre malheur. Peut-être vous vous demandez ce que c'est, peut-être vous avez déjà deviné. Il s'agit de la pensée. On pense des milliers de fois par jour. Ironiquement, on ne fait pas tellement attention à nos pensées. On n'en prend pas tellement soin. On essaye rarement de les rendre meilleures. On y est totalement libre et pourtant il y a plein de moments où on n'arrive pas à penser à autre chose, où ces pensées s'imposent à nous. Et elles sont rarement positives, très souvent négatives ou répétitives. Et le spiritisme rend la pensée beaucoup plus concrète. Car dans la vie matérialiste, on imagine la pensée comme étant quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, un échange de courant électrique qui n'existe qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Le spiritisme montre que c'est bien plus. Mais la première chose à se rappeler, c'est que la pensée crée tout. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Il disait « c'est parce que je pense, c'est parce que j'arrive à penser que je peux déterminer une seule chose, c'est que j'existe ». Ça, c'était l'idée du philosophe Descartes. Mais la pensée va créer nos paroles. Là, maintenant, pour parler, je suis en train de penser. Va créer nos projets, nos actes, nos habitudes, notre caractère, notre personnalité, etc., etc. La pensée va créer notre vie. Et elle n'est pas que en nous. Parce que les pensées et les sentiments, les esprits ont enseigné, ce sont des énergies. Ce sont des choses qui sortent de nous, qui s'extériorisent et qui peuvent aller dans le monde extérieur et créer des effets. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la maison ou l'appartement de quelqu'un qui ne va vraiment pas bien. Par exemple, une personne dépressive. On arrive dans l'endroit et beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous sentent quelque chose. Sentent une énergie lourde, quelque chose qui est un peu... Malgré la décoration, malgré l'éclairage, peu importe, c'est lourd comme ça. Eh bien ça, c'est simplement l'accumulation de pensées tristes, déprimées, liées à la maladie qu'a cette personne. Et donc, nos pensées créent. Elles créent nos actions, elles créent nos idées, elles créent nos projets, etc. Mais elles créent aussi quelque chose autour de nous. Elles créent des formes, des couleurs, etc. Et d'ailleurs, les esprits disent eux-mêmes que ça ne sert à rien de leur mentir parce qu'eux, ils voient nos pensées, qui s'impriment comme sur une télé et comme s'ils voyaient ce qu'on fait. Par exemple, si j'imagine que je veux étrangler quelqu'un qui m'énerve, eh ben, il y a une petite image qui sort de moi, un petit bonhomme de forme pensée, une petite image qui se forme et qui, dans le monde spirituel, va jusqu'à l'autre personne l'étrangler. Ça ne va pas l'étrangler vraiment, on n'est pas dans des science-fiction, mais ça peut lui amener un inconfort, ça peut lui amener une énergie négative, tout simplement. Et donc, ici, dans le monde matériel, on ne voit pas ces pensées. On peut les ressentir, mais de manière très légère. Mais dans le monde spirituel, la pensée est tout. C'est elle qui crée la matière et qui crée tout ce qu'on est. Les esprits voient nos pensées, ils vivent nos pensées avec nous, ils y sont attirés ou repoussés. C'est ce qui fait que souvent, autour d'une personne qui a une certaine difficulté ou un certain problème, on aura des esprits qui ont la même difficulté. Par exemple, près des fumeurs, on retrouve des esprits fumeurs qui ne peuvent plus aller à la librairie acheter un paquet de cigarettes, l'allumer avec un briquet et fumer. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus les moyens de rentrer dans la librairie, etc. Ça ne marche plus, ça fait l'effet fantôme, ça passe la main à travers. Eh bien, pour pouvoir fumer, ils vont se coller à d'autres fumeurs et ils vont prendre leurs énergies, prendre leurs sentiments, leur forme de pensée, l'énergie qu'ils exhalent en fumant. Et quand on fait le bien, quand on aime, etc., ben on va voir autour de soi des esprits qui sont attirés par cette pensée. Et puis aussi, la spiritualité nous explique que les esprits participent à nos pensées. Ce langage qu'on a dans notre tête, ces idées qu'on pensait n'être qu'à nous, ils expliquent que bien souvent, il y a des esprits qui vous donnent des pensées. Moi, j'aime bien l'image qu'on a dans les dessins animés, parce qu'elle est très très réaliste finalement, d'un petit démon qui dit « Ah, vas-y, prends le portefeuille, prends le portefeuille !» Et l'autre qui dit « Mais non, c'est pas à toi, rappelle la personne et dis-lui « Monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille !» Et donc on a vraiment ça dans la vie. Et dans nos pensées, on a ça aussi. Quand on a face à une tentation, face à quelque chose, on a deux parties de nous-mêmes. On a une qui dit « Vas-y, fais la bêtise !» et l'autre qui dit « Non, non, faites ce qui est bien !» Et bien souvent, dans nos pensées, il y a aussi des idées qui nous sont amenées par d'autres, des pensées qui nous sont amenées par d'autres. Que ce soit les uns pour les autres, parce que quand on est dans un conflit, je donne un exemple, si j'ai envie d'étrangler quelqu'un, j'envoie une énergie négative à la personne. Et la personne aura tendance à penser plus à moi, à nourrir cette énergie négative. Et quand les deux ont ces énergies négatives, ils se mettent en syntonie et ils se nourrissent l'un l'autre de cette agressivité, de ces énergies d'agressivité. Et donc ça va créer vraiment une véritable psychosphère. Donc une atmosphère faite de pensées, faite d'idées. Et cette atmosphère, on vit dedans. On peut imaginer comme une bulle autour de nous, que généralement on appelle aura, mais qui est remplie de nos idées, de nos pensées, de nos énergies. Et du coup, bah, avec la nature de nos pensées, on peut imaginer notre petite bulle d'énergie dans laquelle on vit, dans laquelle on respire, et on peut imaginer sa qualité. Si c'est plutôt tout beau, tout joli, tout brillant, ou si c'est plutôt toute une fumée bien polluée, comme on pourrait imaginer quelque chose qui sort d'un pot d'échappement d'une voiture très vieille. Parce que ça, c'est nos pensées. Et que si quelqu'un nous envoie des pensées négatives, si on ne rentre pas en lien, en syntonie avec cette énergie, c'est naturellement repoussé. Ça fonctionne comme un bouclier. Et donc si on veut être protégé des mauvais esprits, il y en a qui disent « Ah, il faut mettre un gris-gris, il faut allumer une bougie, etc. » Le spiritisme dit « Non, ça c'est des bêtises, c'est pas la réalité. Si vous voulez être protégé contre le mal, contre les mauvais esprits, etc., il faut que dans votre cœur et que dans votre tête, il y ait du bien, il y ait de l'amour. » Et aussi, on ne se rend pas compte, mais nos pensées vont complètement transformer et donner une forme au monde qui nous entoure. Il suffit d'être fâché contre quelqu'un pour voir qu'on ne le voit plus du tout pareil. Quand la personne passe et dit « Ah, bonjour !» On dit à notre collègue « T'as vu comment il m'a dit bonjour ? T'as vu la haine dans son regard, là ? T'as vu la moquerie ?» On a tous vécu ça. Là, j'exagère un petit peu. Je fais un peu de comédie. Mais on a tous vécu ça. Que quand on est fâché contre quelqu'un, la moindre petite chose qu'il fait, on l'interprète mal. On se dit « Ah, il a fait ça pour m'énerver, il a fait ça... Et ça s'appelle le regard de la haine. L'autre a fait quelque chose de neutre, mais notre regard transforme ce qu'il a fait. Et avec l'amour, c'est exactement l'inverse. On dit l'amour rend aveugle. Moi, je trouve qu'au contraire, l'amour rend très, très lucide. Parce qu'il nous permet de voir avec des yeux positifs tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on aime quelqu'un, même quand on va lui dire bonjour et qu'il fait « ça dure », on ne se dit pas « il est fâché avec moi ». On se dit « ah, mon ami doit avoir des soucis, il doit avoir un problème, il faut que je sois là pour lui, il faut que je le console et tout ça ». Donc notre monde va devenir complètement différent, beaucoup plus lumineux. Parce que bien souvent, on oublie de penser à comment on pense, de réfléchir un peu sur la nature, la forme de nos pensées. On oublie que c'est ce qui se passe là-dedans qui crée notre monde. Et que si on passe son temps à regarder des choses négatives, à se nourrir de nouvelles déprimantes, à se nourrir de peur, d'horreur, etc., eh bien, ça va créer le monde qui nous entoure. Et on va voir le monde qui nous entoure d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, quand on essaye d'arrêter un vice, on essaye d'arrêter une dépendance, on essaye d'arrêter de fumer, de boire, de prendre une drogue ou une autre mauvaise habitude. Notre plus grand ennemi, et celui contre lequel on va devoir le plus lutter, ça va se passer ici. Parce que pendant tout un temps, on dit « allez, j'aimerais bien aller boire un verre, ah, j'aimerais bien aller à… » etc. Et plus on arrive à discipliner la pensée, plus on arrive à arrêter cette pensée avant qu'on commence à imaginer le beau verre avec les beaux glaçons et oh, les amis du bar. Et oh, plus on est comme ça dans cette pensée, plus ça va grandir. Ça va grandir. Jusqu'au moment où on est là, oh, je ne peux pas, je dois aller boire, je dois aller au bar, je dois aller boire un verre, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'on a nourri cette pensée, qu'on a fait grandir ça dans notre tête. Et on fonctionne beaucoup comme ça dans notre vie. On fonctionne beaucoup comme ça avec des choses négatives, mais on peut aussi le faire avec des choses positives. Une des premières choses qu'on doit faire quand on veut discipliner nos pensées, la méditation l'enseigne, c'est l'accepter. Parce qu'un danger, quand on essaye de rendre nos pensées plus positives, c'est de refouler. De dire non, il n'y a rien qui se passe de mal, non, cette dispute n'est pas importante, je ne suis pas fâché. La première chose qu'on doit faire quand on veut travailler avec ses pensées, c'est accepter et reconnaître nos pensées. Ok, je suis en colère contre mon collègue qui m'a dit ça aujourd'hui. Première chose, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Et écoutez ce que ça dit, ce que cette émotion, ce que cette pensée nous dit. Quand on fait ça, déjà, on se détend. On se détend beaucoup. On reconnaît, ok, j'ai envie d'aller au bar. Ok, j'ai envie d'étrangler mon collègue. Et là, on peut commencer à travailler. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment un travail sur le long terme, d'apprendre à nourrir ses pensées de positif. Déjà, on peut se nourrir, littéralement. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce dont quoi on nourrit notre pensée, va créer notre psychosphère. Si on prend par exemple l'habitude de lire des livres positifs, des livres pleins d'idées qui nous amènent des belles choses, on va remplir notre psychosphère de ces choses-là. Si on prend l'habitude de prier, de méditer, la méditation c'est vraiment excellent pour s'amuser, pour s'entraîner à améliorer ses pensées. Lire, voir des belles choses, l'art dans le sens l'art qui nous inspire, mais aussi l'amour, vibrer, utiliser notre imagination pour envoyer de l'énergie positive aux autres. Il y a un magnifique proverbe qui existe en Belgique, mais qui existe aussi dans d'autres pays, c'est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Bien souvent, là-dedans, on complique les choses. On rend les choses très très compliquées. Par exemple, quand on a envie de faire quelque chose, on se dit « Oui, mais non, mais il va y avoir un… » On passe notre temps à penser, à se dire « Ah, mais il va arriver telle chose, ah, si jamais je suis malade, ah, si toute ma famille va mourir. » On a tous ces pensées un peu bizarres qui nous remplissent. Il n'y a pas de mal. Il se passe des choses bizarres dans notre tête. Mais on peut apprendre à nourrir. Et moi, j'ai une petite proposition. Au lieu de penser à la prochaine catastrophe, aux guerres, aux problèmes économiques, à la maladie, aux problèmes qui nous assaillent, on pourrait se dire, on pourrait penser, se dire, ok, comment est-ce que je vais être heureux aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire pour être heureux aujourd'hui ? Comment est-ce que je vais collaborer au bonheur de ceux qui m'entourent? Et vous verrez, quand on essaye d'entraîner cette petite pensée, mettez-vous un rappel, faites un petit truc comme ça, et dire, ok, juste faites cet exercice. Comment est-ce que je vais être heureux aujourd'hui? Vous verrez que le monde va rester le même, vos problèmes vont rester les mêmes, vos souffrances ne vont pas disparaître, et pourtant, tout sera complètement différent.
Le spiritisme, quels sont ses principes de base? Survivance de la conscience. Notre conscience vivait avant et continuera à vivre après la mort du corps physique. Dans le monde spirituel, nous conservons notre individualité. Réincarnation. Nous avons plusieurs vies successives qui nous permettent d'évoluer et réparer les erreurs que nous aurions pu commettre par le passé. Loi de cause à effet. Ce principe hérité des sciences positives est aussi appliqué à la vie morale. Toute action, bonne ou mauvaise, entraîne une réaction. Libre arbitre et responsabilité. Le spiritisme ne contient ni obligation ni interdit. Il explique simplement les conséquences, bonnes ou mauvaises, de nos actions accomplies en vertu de notre libre arbitre. Évolution. La philosophie spirit explique que, par nos différentes existences, nous pouvons évoluer et devenir meilleurs. Médiumnité. Le spiritisme perçoit la faculté de communiquer avec le monde spirituel comme naturelle et présente chez tous les êtres humains à différents degrés. L'inspiration et l'intuition sont des formes de médiumnité. Maintenant, la réforme intime à partir de l'œuvre d'André Luiz, en dupliquant les comportements et enseignements des esprits dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, dans nos solars, la suite du portrait de Laura sera une source d'inspiration pour le rôle de mère. La prière finale s'inspirera de la question 179 du Livre des Esprits.
Nous allons, en ouvrant nos solars, nous offrir la possibilité de quitter la terre de nos pensées habituelles pour écouter les conseils du monde spirituel. Cela nous donnera l'occasion de recevoir des approfondissements, un accompagnement par des exemples concrets qui pourront nourrir notre foi, la faire croître et la rendre de plus en plus raisonnée et solide. Nous continuons aujourd'hui le portrait de Laura, commencé dans l'émission précédente. Nous retrouvons le prénom de Laura cité dans deux titres de chapitre de nos solars. Il s'agit du 39, intitulé « Le point de vue de Laura » et du 47 « Laura s'apprête à partir ». Cette mise en avant attire donc notre attention sur l'importance du modèle que nous offre Laura, d'autant plus que les échanges entre Laura et André occupent principalement la quasi-totalité des chapitres 18, 19, 20, 21, 22, 48 et 49. Il y a donc beaucoup d'inspiration à recueillir par l'observation et l'écoute de cet esprit qu'est Laura. Nous avons choisi dans cette émission d'observer Laura sous l'angle de la mère et plus particulièrement de son attitude maternelle envers quelqu'un qui n'est pas son enfant, comme c'est le cas d'André. Cet exemple dépasse donc les liens de sang et de famille spirituelle et peut servir d'exemple à celles qui n'ont pas d'enfants et qui vont prendre soin de quelqu'un comme si c'était leur enfant. C'est un axe important de la réforme d'élargir son point de vue, son cadre de vie pour arriver de vie en vie à s'aimer les uns les autres. C'est au chapitre 17 que nous voyons ce lien entre André et Laura se mettre en place avec cette phrase de Lysias à propos d'André, ouvrez les guillemets. J'aimerais l'accueillir dans notre maison tant que durera sa période d'observation. Ma mère l'y traitera comme un fils, fermez les guillemets. Oui, André sera traité comme un fils, car sa mère, vivant dans un monde supérieur, ne peut le loger, le nourrir et le faire grandir moralement au quotidien. Elle peut être seulement auprès de lui à de courts instants ou lors de ses rêves. Et André a besoin de soutien, car il découvre nos solars, ses habitants, la spiritualité, un peu comme un enfant nouveau-né qui débarque dans le monde. Il nous dit qu'il est, au chapitre 18, ouvrez les guillemets, éminemment surpris. Un peu plus loin, ouvrez les guillemets, à la recherche d'explications immédiates, fermez les guillemets. Au chapitre 20, il nous dit, ouvrez les guillemets, je l'interrogeais avec curiosité, fermez les guillemets. Laura va donner à André des informations pratiques, aussi bien sur la nourriture, l'argent, les activités quotidiennes, le travail, la rémunération, la propriété, l'amour. Car André se pose beaucoup de questions face à tout ce qu'il voit à nos solars. Il est un peu comme ses enfants qui nous demandent « Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Et comment ça se fait que ?» Une des choses qu'on observe et qu'on pourrait faire nôtre, c'est qu'en fait, à chaque fois que Laura donne une explication sur des choses matérielles, elle va jusqu'au spirituel. Elle fait constamment le lien entre le matériel et le spirituel. Et cette façon de faire fait que cela fait de l'effet à André. Il nous dit, ouvrez les guillemets, « Les éclaircissements de Laura me fortifiaient le cœur. » Fermez les guillemets. Chapitre 23. Donc la première chose que nous inspire Laura, c'est ce rôle maternel qui explique des choses quotidiennes en prenant soin de faire la liaison avec le spirituel. Et comme nous avons toujours besoin d'apprendre, de réactualiser, de préciser nos connaissances, l'Évangile, selon le spiritisme, nous fournira toujours plus de connaissances, fortifiera nos connaissances pour pouvoir aller sur le côté spirituel des choses. Et cela est important, car celui qui sera comme un fils, comme une fille, à nos yeux, nous sommes comme une mère dans les yeux des siens. Et c'est auprès de nous qu'il viendra chercher conseil. Dans le chapitre 39, le point de vue de Laura, voilà ce que nous dit André. Ouvrez les guillemets. Mes observations sur le cas de Tobias me trituraient l'esprit. Je n'arrivais pas à trouver d'éclaircissement juste pouvant me satisfaire. Cela me préoccupait tellement que le lendemain, je décidai d'aller chez Lysias dès que j'aurai un congé afin d'obtenir les explications de Laura à qui je vouais une confiance filiale. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que nous pouvons observer dans nos solars qui montrerait comment s'est construite cette confiance entre Laura et André, qui va bien au-delà de la distribution de connaissances? Il y a l'attitude de Laura. Dans le chapitre 18, voici ce qu'il nous est dit. Ouvrez les guillemets. Laura prit la parole en souriant. Fermez les guillemets. Dans le même chapitre, un peu plus loin, ouvrez les guillemets. Laura esquissa un aimable sourire et rétorqua. Fermez les guillemets. Chapitre 19, ouvrez les guillemets. Souriant maternellement, Laura ajouta, fermez les guillemets. Toujours au chapitre 19, ouvrez les guillemets. Non, non, je ne dis pas cela, intervint Laura en souriant, fermez les guillemets. Toujours au chapitre 19, ouvrez les guillemets. C'est vraiment ce que tu crois ? Demanda Laura d'un ton affectueux, fermez les guillemets. Toujours au chapitre 19, ouvrez les guillemets. voyant que la malade semblait adopter l'attitude de celle qui désire des preuves, Laura insista, très doucement, fermez les guillemets. Toujours dans ce même chapitre, ouvrez les guillemets. Laura sourit et répondit avec précaution, fermez les guillemets. Au chapitre 22, ouvrez les guillemets. Laura sourit à cette question et répliqua, fermez les guillemets. Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre, ouvrez les guillemets. Nous n'avons pas de telles complications ici, répondit Laura en souriant, fermez les guillemets. Au chapitre 25, ouvrez les guillemets. Laura ajouta avec tendresse, fermez les guillemets. Et je m'arrête là, car les exemples sont nombreux, et Laura a toujours cette attitude constante de sourire, de parler avec douceur, quels que soient les propos de son interlocuteur. Quand elle est contredite, elle reste tendre et souriante. Quand on remet en question ce qu'elle dit, elle reste tendre et souriante. Quand elle se trouve face à des gens en colère, énervés, exaspérés ou dans un émotionnel débordant, elle reste tendre, calme. Cette constance, cette douceur est une des explications qui fait que la confiance naît entre André et Laura. L'autre point est qu'elle fait ce qu'elle dit, que les fruits qu'elle produit sont en rapport avec les paroles, les valeurs qu'elle donne. Ainsi, au chapitre 20, André le reconnaît en nous disant, ouvrez les guillemets, désirant recueillir les valeurs éducatives qui émanaient naturellement des paroles de Laura, je l'interrogeais avec curiosité, fermez les guillemets. Il y a donc ce naturel chez Laura où il n'y a pas de fossé, quels que soient ses différents interlocuteurs, quel que soit le sujet, quel que soit l'état mental ou émotionnel de celui qui vient lui demander conseil. Sans qu'elle ait à renoncer à l'expression des idées qui lui tiennent à cœur, aux conseils qu'elle veut prodiguer, comment s'y prend-elle? Eh bien, elle complète quand elle pense que des éléments doivent être dits. Le livre nous dit, entre guillemets, elle renchérit. C'est au chapitre 18. Elle sait dire non, tout en gardant le sourire, comme c'est le cas décrit au chapitre 19. Elle interroge l'autre quand il s'exprime pour savoir si c'est vraiment ça qu'il croit au fond de lui. Quand l'autre est dans un état d'urgence et se complaît dans un système de pensée, elle insiste, nous dit le chapitre 19. Et à chaque fois, quand elle veut enseigner, témoigner, elle utilise beaucoup d'exemples, d'images, d'analogies, pour mieux faire comprendre à l'autre ce dont il est question, quel serait le chemin de pensée ou d'action à prendre. Pour que tout ce qu'elle dise soit profitable, entendable, elle prend toujours soin d'indiquer les différentes étapes par lesquelles il faut passer au fil du temps pour montrer qu'une situation qui peut être agréable, a été le fruit d'une avancée permanente, des fois inconfortable. Que tout ce qui a été acquis est le résultat d'un travail régulier, individuel ou collectif, avec l'aide des esprits plus élevés qui a été apporté. Ainsi, on voit que ses interlocuteurs ne sont pas découragés face à la masse de travail à accomplir, parce qu'il voit que chacun d'entre nous a besoin de fournir un travail progressif, régulier, pour transformer sa vie, ses relations, ses pensées, et pour s'élever petit à petit, moralement, et tendre vers l'exemple que nous fournit Jésus-Christ. Un des autres points que l'on peut aussi mettre en avant est tout le travail invisible, non dit, qu'elle fait, même quand elle n'est pas présente auprès d'André. De par l'expérience qu'elle a, elle anticipe, elle prépare ce qu'elle sait être essentiel pour aider l'autre. Nous le voyons dans le chapitre 26, ouvrez les guillemets. Laura m'a informé de ta visite. Reste aussi longtemps que tu le voudras. Fermez les guillemets. C'est Raphaël qui s'adresse à André, qui vient travailler au ministère de la Régénération. Laura a préparé sa venue. Dans le chapitre 29, il nous est dit, ouvrez les guillemets, c'était Laura qui voulait des nouvelles. Fermez les guillemets. Effectivement, André a travaillé au-delà de sa journée, la nuit complète. Dans les chambres de rectification, il n'a pas eu le temps de prévenir qu'il ne rentrerait pas dormir. Et ils apprennent à André qu'ils l'ont accompagné toute la nuit en prière. Ouvrez les guillemets. « Nous sommes très fiers de toi, » m'affirma-t-elle en souriant. « Nous t'avons accompagné en esprit au cours de la nuit et tes débuts en fait de travail ont rempli notre maison de joie à juste titre. » Fermez les guillemets. Et tout ce qu'elle a témoigné, enseigné à André lui restera. André nous dit ceci au chapitre 50, ouvrez les guillemets. Je me rappelais que Laura m'avait affirmé un jour que dans l'épreuve, toute créature doit imiter l'abeille en s'entourant des fleurs de la vie, c'est-à-dire des âmes nobles, dans le champ des souvenirs, et en extrayant de chacune la substance des bons exemples en vue d'acquérir le miel de la sagesse. Fermez les guillemets. Voilà, dans nos vies, toutes celles qui nous ont servi de maman, nous nous souvenons de leurs conseils une fois qu'elles sont désincarnées. Ici, c'est l'inverse. Laura se réincarne et André se souvient de tout ce qu'elle lui a transmis avec beaucoup d'amour, de conviction et d'affection, de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle savait quand elle était désincarnée. Voilà, nous allons refermer nos solars avec toutes ces attitudes qu'a Laura qui peuvent nous aider dans notre posture de mère, de maman. C'est-à-dire, quand nous parlons de sujets matériels, les ouvrir vers le spirituel. Avoir une attitude tendre, douce, dans notre façon de parler, quelle que soit l'attitude de notre interlocuteur. Essayer de construire avec notre constance une relation de confiance. Et quand nous parlons d'un élément exemplaire, rappeler tout le travail, les étapes qui ont précédé pour montrer que c'est accessible, que c'est possible pour ne pas décourager l'autre. Utiliser les images, les comparaisons, les exemples pour pouvoir des fois insister quand l'autre a de la difficulté à suivre un autre chemin que celui qu'il suit actuellement quand il est dans le tourment, dans le trouble, face aux épisodes douloureux, tortueux qu'il vit. Nous nous retrouverons dans la prochaine émission pour étudier tout ce que nous pouvons observer et recueillir qui peut nous être utile dans le portrait de la mère d'André, qui est un esprit plus élevé qu'André et que les habitants de nos solars. Pour la prière finale, ouvrons le livre des esprits pour trouver un thème dont un auditeur de Radio Kardec a plus particulièrement besoin. C'est la question 179, livre 2, chapitre 4. Je vous lis la question et sa réponse. Les êtres qui habitent chaque monde sont-ils tous arrivés au même degré de perfection? Non, c'est comme sur la Terre. Il y en a de plus ou moins avancés. Je vous retrouve dans quelques instants pour partager la prière qui me vient. Unissons maintenant nos cœurs entre auditeurs de Radio Kardec et élevons nos pensées vers toi, Seigneur, pour te prier. Et nous accueillons dans ce cercle de prière tous ceux des autres mondes, nos frères, nos sœurs, qui prennent refuge en cette seconde, en toi, Seigneur, et en cette action de prière. Quel que soit notre niveau d'élévation morale dans tous ces mondes, nous avons en commun cette volonté de marcher dans tes pas, Seigneur, sur cette route infinie où tu marches chaque jour à nos côtés pour nous consoler, nous porter, nous aider, nous guider. Et si sur une même planète, nous sommes réunis avec des niveaux moraux différents, c'est pour que nous puissions ensemble progresser à l'unisson, avec, pour chacun d'entre nous devant ses yeux, un exemple pour faire mieux, sans en être envieux, car le plus avancé nous montre la réalité que nous pouvons nous aussi espérer. Oui, nous pouvons y arriver. Nous prenons maintenant un temps pour prier pour les peuples d'Orient, sous le feu et dans le sang. Nous leur offrons notre paix intérieure, car ce fluide a de la valeur, car il est fruit d'un dur labeur. Chaque fois que nous nous sommes tus, au lieu de répliquer, nous avons cultivé cette paix intérieure. Chaque fois que nous avons été tentés d'agir, de réagir d'une manière précipitée et que nous y avons renoncé, nous avons nourri cette paix intérieure. Chaque fois que nous avons calmé, apaisé nos pensées par rapport à tel sujet qui nous perturbait, nous avons renforcé cette paix intérieure. Offrons donc ces bons fluides pour que la paix soit distribué, offert en cadeau, offert pour du renouveau. Amen.
La mise en pratique de la philosophie spirit. Toute activité spirit est gratuite, selon le principe « donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement ». Le spiritisme respecte toutes les religions, valorise les efforts pour la pratique du bien, travaille à la fraternité entre tous, indépendamment de la race, couleur, nationalité, croyance ou niveau culturel et social. Il considère que le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Le spiritisme n'impose pas ses principes. Il invite les personnes intéressées qui désirent le connaître à soumettre ses enseignements au crible de la raison avant de les accepter. Il n'a aucun culte extérieur. Il n'a pas de sacerdoce. Il n'adopte ni n'utilise dans ses réunions et dans ses pratiques aucun rituel ni aucune forme extérieure de culte. Seule la médiumnité, à des fins spirituelles et moralement élevées, est pratiquée dans le mouvement spirit digne de ce nom, bénévolement, pour venir en aide à son prochain et ou afin d'élargir les connaissances. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois, En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.